Une heure en France, Denis Farrou, Frédéric Le Ternier.
Bonjour à tous, bienvenue à vous. Bonjour Denis Farrou.
Bonjour Frédéric Le Ternier.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec, comme toujours, toutes vos initiatives. Et on le sait maintenant, hein, au bout de 3 saisons, c'est la 4e. Elles sont nombreuses partout en France, vos initiatives.
Vous êtes sûr? Ça fait pas 5?
Non, on commence la 4e. Bah, dites donc, vous avez trouvé ça plus long, quoi. Allez, aujourd'hui, nous visitons un musée insolite, celui de la chirurgie qui se trouve dans la Nièvre. Ensuite, on va écouter des lectures de textes dans des cabines téléphoniques à Nantes. Et enfin, on va tenter les biscuits à la farine de grillons.
Ce midi, c'est bistouri, littérature et des gris-gris, des grillons.
Et c'est aussi la rentrée de Radio France et donc de France Bleu.
Le directeur de France Bleu, Jean-Emmanuel Casalta, est avec nous dans Une heure en France.
Tout de suite, les infos de ce mardi 27 août avec Simon de Faucompré.
Une heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farrou sur France Bleu.
Bonjour Simon.
Bonjour Frédéric.
Les incendies en forêt amazonienne ont été 4 fois plus violents cet été que l'été dernier.
Constat de l'Agence spatiale européenne ce matin. Rien qu'en un mois, 4000 départs de feu. Le Brésil snob pourtant les 20 millions de dollars proposés par les membres du G7 pour aider à sauver la forêt. Nouvel épisode dans le feuilleton de la réforme des retraites. Emmanuel Macron a été interrogé sur le sujet hier soir dans le JT de France 2. Il préfère, dit-il, un accord sur la durée de cotisation plutôt qu'un âge fixe à 64 ans. Nicolas Ballu, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors on sent quand même que l'exécutif marche sur des œufs avec cette réforme.
Oui, la position du chef de l'État a suscité d'ailleurs un peu de surprise puisque le rapport Delvoye sur le sujet préconise plutôt l'instauration d'un âge pivot 64 ans, en dessous duquel il y aura une décote, l'âge légal 62 ans ne bougeant pas. Il y aura une grande négociation, un grand débat, insistait Emmanuel Macron hier soir, une concertation citoyenne. Pas question de passer en force, affirme en écho ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Le chef de l'État et le gouvernement le savent, le dossier est très sensible en lui-même et il est impossible de faire comme si la crise des gilets jaunes n'avait pas eu lieu. Les syndicats s'avouent un peu surpris puisque le chef de l'État va plutôt dans leur sens. Chez Force Ouvrière, on se méfie. Le patron de la CFDT salue la prudence d'Emmanuel Macron, mais il est lui-même très prudent. On verra, dit Laurent Berger. Attendons le début des concertations. Les partenaires sociaux seront reçus à Matignon les 5 et 6 septembre.
Nicolas Ballu, et une présentation en Conseil des ministres est prévue en fin d'année. Échec du maire de Langouette dans sa guerre contre les pesticides. Le tribunal administratif de Rennes a suspendu l'arrêté municipal de Daniel Cueff aujourd'hui. Il limitait cet arrêté l'usage des produits agricoles jugés nocifs pour la santé des riverains. Tous les détails sur francebleu.fr.
3 personnes en garde à vue à Amiens.
Elles sont suspectées d'avoir participé à une bagarre mortelle sur la voie publique cette nuit vers 1h30. Un homme de 23 ans est mort, poignardé au thorax. Vous l'entendez dans plein de pubs à la télé. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Mais d'après l'association Famille Rurale, eh bien ça peut coûter plus de 200 euros par mois pour une famille de 4. Victoria Coussa.
Oui, le prix des pommes de terre surtout, il bondit de 40%, 1,80€ le kilo en moyenne contre 1,30€ l'été dernier à cause d'un coup de froid au printemps. Ça flambe aussi du côté des tomates, 2,45€ le kilo en ce moment, c'est 30% de plus qu'il y a un an. Résultat, manger 5 fruits et légumes par jour représente jusqu'à 18% du budget d'une famille de 4 qui touche le SMIC en zone rurale, car à la campagne il y a moins de concurrence, donc plus de marge à se faire pour les vendeurs. Alors un conseil, rabattez-vous sur les fruits d'été, surtout qui coûtent moins cher cette saison. Vous gagnez 50 centimes sur le kilo de pêche ou de nectarine par rapport à l'an dernier. C'est en hard discount que vos fruits et légumes restent les moins chers, 2 fois moins même que dans une boutique bio.
Les précisions de Victoria Coussa à retrouver sur notre site francebleu.fr. Il faut mieux étiqueter les produits ménagers dangereux. La demande du magazine 60 millions de consommateurs qui affirme qu'un produit sur deux qu'on utilise est risqué pour la santé et la planète. On la sent venir, hein, cette rentrée scolaire, plus que 6 petits jours pour l'occasion. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a dit ce matin vouloir responsabiliser les familles en proposant un suivi plus précis et personnalisé pour chaque élève. Et la rentrée, eh bien, on n'y échappe pas non plus à Radio France. Les nouveaux programmes ont été présentés ce matin, le détail dans un instant.
Oui, avec un maître mot, proximité, la raison d'être de France Bleu avec l'info locale, le sport, le trafic, la musique. Ce sera dans un instant avec le directeur de France Bleu, Jean-Emmanuel Casalta.
Pour arrêter un match de foot après des cris homophobes comme ce week-end pendant Brest-Reims, eh bien il faut du courage. Salut Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, fan de foot, affirme qu'on est sur la bonne voie.
Je crois que c'est un message très fort qu'envoie le monde du foot de dire que l'homophobie, le sexisme, le racisme n'ont plus leur place dans les stades.
Quand vous entendez des insultes comme ça dans un stade, quand vous y assistez, vous faites quoi ?
C'est une très bonne question et je me suis posé la question.
Vous partez ou pas ?
À un moment, il y a eu un champ pour lequel je me suis posé la question et j'étais avec la ministre des Sports d'ailleurs. On a échangé, le champ s'est arrêté et nous sommes restés. Mais vous avez raison, la prochaine fois, je quitterai le stade quand il y aura des champs homophobes.
Et on l'apprend aujourd'hui, donc fin de l'épisode de pollution à l'ozone sur la région parisienne, toutes les voitures peuvent donc rouler. On apprend aussi que 7 personnes ont été mises en examen et 6 écrouées pour le cambriolage de 2 joueurs du PSG, Thiago Silva et Choupo-Moting. C'était en décembre dernier, plus €1 million auraient été dérobés. Et sur la pelouse, rendez-vous de Ligue 1 ce soir, Montpellier-Lyon à 19h. En parallèle, 6 matchs de Coupe de la Ligue, Bourg-en-Bresse-Béziers, Nancy-Ajaccio, Lens-Clermont, Le Mans-Orléans, Niort, Grenoble et Ajaccio, Paris FC. Et maintenant, un peu moins d'une demi-heure avant le dernier test des basketteurs tricolores, France-Serbie, dernier match de préparation avant la Coupe du Monde en Chine qui démarre samedi.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr. Tous les grands événements partout en France sont sur France Bleu.
Les flâneries musicales ont le privilège d'être avec France Bleu.
Les flâneries musicales de Reims.
Nous fêtons ensemble ce 30e anniversaire.
Sur France Bleu Champagne Ardennes. Le jumping international de Valence. Avec France Bleu Drôme Ardèche. Le festival interceltique de Lorient avec France Bleu Brésisel.
France Bleu Brésisel, radio officielle des festivals bretons.
Partout en France, sur chaque événement, il y a votre France Bleu.
Tous les grands événements sont sur France Bleu.
On regarde la météo avec des orages aujourd'hui, Frédéric Le Tournier.
Et oui, à l'ouest, les nuages dominent, le temps est instable, des averses localement orageuses, vous l'avez dit, vont toucher l'ensemble du pays. Elles pourront donner de bons cumuls de précipitations, de fortes rafales de vent et même parfois de la grêle par endroits. Cette tendance, elle est plus marquée dans les Pyrénées et en fin d'après-midi, la couverture nuageuse se fait encore plus dense sur la façade atlantique avec l'arrivée de nuages bas. Instabilité donc qui va se renforcer notamment sur le Roussillon. Du côté des températures, il fait encore très chaud cet après-midi. 31 à Lille, 32 à Strasbourg, 34 à Paris, 28 à Rennes, 27 à Bordeaux, 29 à Marseille et 32 à Lyon. C'est maintenant l'heure de la rentrée. Ce matin, Radio France a présenté à la Maison de la Radio à Paris ses nouveaux programmes qui ont débuté hier sur les chaînes. Le directeur de France Bleu est avec nous.
Bonjour Jean-Emmanuel Casalta.
Bonjour.
Vous avez annoncé ce matin plus d'infotrafic, plus de mobilité, plus d'infos locales, plus de musique. Vous savez qu'une journée fait 24 heures?
C'est ça ce qui est formidable, c'est que ça dure 24 heures, on peut y mettre des tas de choses. Et oui, effectivement, j'ai annoncé que plus encore aujourd'hui qu'hier, la signature de France Bleu, Info, Trafic et Mobilité en temps réel soulignera l'implication, l'engagement de France Bleu dans la proximité, dans l'info locale. C'est ce qu'on fait avec des rendez-vous d'info qui, en matinale, seront là tous les quarts d'heure sur l'info locale, avec évidemment le complément d'info nationale et le cas échéant international qui est nécessaire, et qui rythmera les matinales de France Bleu, qui seront aussi des matinales musicales, puisque France Bleu sera aussi très musique cette année.
On sent qu'il y a des nouveautés, de nouveaux programmes aussi, il n'y a pas que la musique.
Il y a énormément de travail qui a été fait par l'ensemble des équipes de France Bleu pour proposer une magnifique rentrée à nos auditeurs cette saison. Nous avons renouveler l'exécution de la promesse éditoriale de France Bleu depuis 5h du matin jusqu'à minuit le soir, du petit matin qui est fait ici dans ces studios, des matinales réalisées dans toutes les locales de France. Cette magnifique émission que nous venons d'entendre à midi menée, on a quand même osé réunir Arnold et Willis, c'était pas à la portée de n'importe qui. Et c'est ainsi que toute la proposition éditoriale de France Bleu a évolué, mais avec une seule idée en tête, c'est renforcer ce qui fait la force de France Bleu, c'est-à-dire cette dimension de proximité, qu'elle soit exercée nationalement ou localement.
Alors à ce propos, France Bleu, c'est 44 radios locales sur le territoire. Vous avez employé cette expression ce matin à la Maison de la Radio à Paris, 44 nuances de bleu.
J'aime beaucoup cette expression.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il y a tout à la fois l'expression d'une stratégie nationale, d'une ambition qui porte l'ensemble des axes majeurs de France Bleu. Et il y a la réalité de 44 stations locales, de 44 territoires différents. Et ce qui fait l'unicité de France Bleu, c'est cette capacité d'adapter localement une expression et une promesse nationale, de faire se croiser l'ambition locale et l'ambition nationale.
Donc si on comprend bien, le squelette est le même, mais il y a les spécificités de chacun.
Vous savez, à 18h, on a installé un rendez-vous qui s'appelle 100% Club. Quand on est dans le Béarn, ça n'a rien à voir avec quand on est à Paris ou en Île-de-France, ou quand on est en Provence, ou bien quand on est en Armorique. Voilà, il y a cette dimension-là qui est différente. Ensuite, il y a aussi ce qui fait l'intérêt local qui est différent de station en station, mais c'est cette même proposition globale d'orientation vers l'info locale, l'accompagnement en mobilité, ce qui fait notre quotidien et ce qui aussi, parce que c'est tout autant la promesse de France Bleu, ce qui nous fait découvrir ou redécouvrir ce qui fait notre proximité immédiate.
Ouais, des initiatives de radio sont mises en avant. Il y a le Dico des ados avec France Bleu Besançon, par exemple. Il y a le groupe de musique de luxe du Sud, révélé par France Bleu Provence. C'est un exemple parmi tant d'autres.
Oui, c'est ça aussi notre rôle, c'est de faire émerger des talents locaux, de les découvrir, et ça c'est le talent de nos professionnels partout sur le territoire, qui rencontrent d'autres talents, des talents artistiques, et le cas échéant, de les mettre en diffusion nationale. C'est ce qu'on a fait pour Deluxe, qui, découvert par France Bleu Provence, a été diffusé nationalement tout cet été par France Bleu, et je pense que c'est ça aussi notre rôle, faire vivre les territoires, les exposer, montrer à quel point on peut être fier d'eux.
Eh bien, on va se souhaiter une bonne rentrée dans Une Heure en France. Et puisque vous êtes avec nous, monsieur le directeur, Frédéric et moi, on est ravis de repiquer une nouvelle saison d'Une Heure en France.
Bonne rentrée.
Bonne rentrée à vous.
Jean-Emmanuel Casalta. On a dit à deux. Le directeur de France Bleu. Merci beaucoup.
Une Heure en France. Denis Farou. Frédéric Le Tournier.
Une nouvelle heure ensemble partout en France à partager toutes vos bonnes idées. Et nous commençons dans la Nièvre ce mardi avec la visite d'un musée assez insolite. C'est le musée de la chirurgie qui revient sur des siècles d'avancées en ce domaine.
Ça commence par un caillou, un silex pour opérer au temps de la préhistoire.
Ça fait peur.
Ah, il fait la grimace Frédéric. Ah, mais on parlera aussi des saignées et des anesthésies d'un autre temps.
Nous sommes ensuite à Nantes où la célèbre librairie Coiffard fête en beauté ses 100 ans. Et à cette occasion, deux cabines téléphoniques ont été installés dans la ville et nous proposent d'entendre des lectures de grands romans.
Allô Coiffard, j'écoute. Dans une cabine, vous écoutez un extrait de Bonjour Tristesse ou de L'écume des jours.
Et enfin, nous allons tester des curiquitos. Ce sont des sablés à la farine de grillon. Une recette qui a été très difficile à mettre au point.
Là aussi, vous faites la grimace.
Oui,
des
deux fois.
Sablés au grillon de Toulouse. Pourquoi Toulouse d'abord? Fabriqués en Limousin. Et pourquoi en Limousin?
On posera les questions, non? Ouais. Une heure en France ensemble. C'est évidemment jusqu'à 14h. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it, get down on it. Get down on it, get down on it. Come on and get down on it, baby, baby. What you gonna do? You gotta get on the groove. If you want
by standing on the wall? Get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Cause I heard all the people saying,
c'est la rentrée Cool and the Gang sur France Bleu avec Get Down
Jeu on It. De mots.
Merci de le souligner.
Jeu de mots.
Une heure en France. Denis Farrow, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
On a découvert cet été un musée particulier qui d'ailleurs n'ouvre ses portes que sur commande. C'est le musée de la chirurgie dans la Nièvre qui retrace l'évolution de la chirurgie, l'anesthésie, les techniques opératoires, les instruments de la préhistoire aux greffes d'organes.
Nous sommes à Mienne, c'est un petit village au nord de Nevers et on est curieux de faire la visite.
Ça oui, vous pouvez le dire. Ce sera avec le directeur scientifique du musée de la chirurgie, professeur Laurent Cabrol. Bonjour Jean-Louis Daumalin.
Bonjour.
Qu'est-ce que l'on trouve principalement dans le musée? Ce sont des bistouris, par exemple, au fil des siècles, et qui ne se sont pas toujours appelés comme ça, d'ailleurs.
Effectivement. On commence la visite avec ce qui peut surprendre, et ce qui surprend le visiteur, avec des premiers ancêtres, des bistouris, des silex du néolithique qui servaient à faire de petites incisions. Et ensuite, on voit l'apparition des bistouris dans l'Antiquité, puis leur évolution avec le XVIe siècle, avec notre grand chirurgien français, Ambroise Paré. Et puis ces bistouris, on va les retrouver ensuite dans des vitrines au XIXe siècle, où ils ont des manches de bois. Puis progressivement, on va les retrouver avec des manches entièrement métalliques pour être stérilisés. Voilà.
Les Égyptiens étaient assez doués en la matière, en ce qui concernait la chirurgie.
Oui, tout à fait. On sait que les Égyptiens faisaient notamment des sutures très fines du visage avec des cheveux de femmes pour éviter les cicatrices trop voyantes, entre autres, voilà.
On apprend des tas de choses.
L'émission est faite pour ça.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai vu une scie chirurgicale du XVIIIe siècle. Elle ressemble étrangement à la scie à métaux que j'ai dans mon établi à la maison.
Voilà, eh bien oui, en effet, parce que pour couper un os, eh bien on utilise encore des scies. Et en effet, nous possédons toutes sortes de scies à amputation, des grandes, des petites, jusqu'aussi moderne, puisque le musée a pour but de présenter l'histoire, mais l'évolution de l'art chirurgical tout au fil des siècles. Et on arrive, en partant donc du néolithique, comme je vous l'ai dit, nous arrivons aux techniques et aux instruments les plus modernes.
À ça, on va y revenir, mais vous parliez tout à l'heure d'Ambroise Paré. Hippocrate aussi a beaucoup apporté à la chirurgie.
Hippocrate, oui, a laissé des écrits extrêmement intéressants sur l'anatomie. C'était le début. Hein. C'est le premier qui va synthétiser l'art de la médecine, et il y incluait un petit peu de chirurgie également. La chirurgie était néanmoins, et ce pendant de très longs siècles, très peu développée. On n'opérait pas énormément, et les opérations étaient souvent très superficielles, pas de chirurgie profonde. On essayait de réparer, si je puis dire, les plaies profondes, mais on se rendait compte que souvent les blessés décédaient quelques heures ou quelques jours plus tard, et on ne comprenait pas pourquoi. Et à la fin, dans la seconde moitié du 19e siècle, on va comprendre que, eh bien, ces pauvres gens décédaient de septicémie, donc d'infection généralisée. Les germes rentraient dans les plaies opératoires et ou dans les plaies tout court et tuaient les gens. Mais ça, il faudra de longs siècles pour qu'on le comprenne et qu'on arrive à résoudre ce problème.
Voilà. Alors, allez-y, poursuivez.
Et Hippocrate, lui, nous a laissé pendant de longs siècles la saignée. Oui. Voilà, on lui doit ça, pour forcément pour le bien des patients. Il avait fait un traité des humeurs, humeur qui signifie liquide en grec, et pour faire très bref, eh bien en fait, on saignait les gens parce qu'on pensait que la maladie s'évacuait par le sang, et donc on pouvait saigner les gens plusieurs fois par jour. Et comme les résultats n'étaient pas toujours concluants, ben on recommençait.
Ouais, bien sûr. Voilà. On a beaucoup de récits d'ailleurs.
On a tâtonné. Hein.
On a beaucoup de récits à la période des rois 16e et 18e avec les saignées. C'est sûr que ce musée ne se visite pas comme un autre musée pendant les vacances. Il faut être un petit peu prêt, se préparer. Qu'est-ce qui surprend le plus les visiteurs lors des visites ?
Qu'est-ce qui peut surprendre ? Un petit peu tout, je vous dirais. Les gens sont toujours étonnés de ce que l'on a utilisé, des techniques employées. Une chose, par contre, ce sont les progrès modernes. Les gens sont étonnés de voir que c'est relativement récent. Effectivement, notre chirurgie moderne va prendre son essor à partir de 1890 et 1900, où nous allons avoir des techniques d'anesthésie qui vont être efficaces, où l'on va effectivement pouvoir lutter efficacement contre ces germes pathogènes qui empoisonnaient les gens. Ça, on le doit à Joseph Lister, à Louis Pasteur, les travaux de Louis Pasteur, et un chirurgien écossais, Joseph Lister, qui va inventer une méthode pour justement opérer en toute sécurité. Et puis ensuite, on a Octave Thérillon, un autre chirurgien français, qui, sur une idée de Louis Pasteur, eh bien, lui stérilisera ses instruments, et sera le premier à faire construire des boîtes entièrement métalliques et des instruments entièrement métalliques pour les stériliser. Et ainsi, à partir de cette époque-là, eh bien, notre chirurgie va faire des progrès absolument, absolument énormes. Les gens sont souvent, effectivement, étonnés de voir que c'est si récent.
Le musée de la chirurgie, professeur Christian Cabrol, dans la Nièvre, à Mienne, au nord de Nevers. C'est un musée privé qui est ouvert uniquement sur rendez-vous pendant l'été, mais qui sera ouvert pendant la nuit des musées et lors des journées européennes du patrimoine.
Allez-y, faire un tour. Les journées du patrimoine, ce sont des journées du 13 au 15 septembre cette année précisément. Allez-y et merci beaucoup de nous avoir fait une rapide visite aujourd'hui, Jean-Louis Daumalin.
Mais je vous en prie.
Bonne journée, à bientôt.
Bonne journée, à bientôt, au revoir.
Au revoir. Ça fait envie malgré tout, hein. J'étais un peu réticente.
Vous avez fait la grimace plusieurs fois.
Ouais, ça fait, oui, bah effectivement, le silex dans le crâne, on n'a pas tout de suite envie.
Les saignées aussi,
les
vous avez apprécié moyennement.
Allez, on joue pour une montre France Bleu Sport, pour rester un petit peu à l'heure d'été. Dites-nous quel célèbre chirurgien a utilisé en premier le mot bistouri. Est-ce qu'on l'a dit avec notre invité ? Il me semble bien. Est-ce que c'est Hippocrate ou est-ce que c'est Ambroise Paré ?
On a parlé de lui, mais on n'a pas dit qui avait inventé le mot.
Alors, est-ce que c'est Ambroise Paré ou Hippocrate qui a été le premier chirurgien à utiliser ce mot bistouri ? Vous nous appelez au 0810 055 056 et puis vous restez bien avec nous parce que dans quelques minutes, on va écouter de la littérature. Et oui, dans une cabine téléphonique, ça se passe à Nantes. Et à 13h45, on va tenter de déguster des biscuits à la farine de grillon. Vous vouliez quoi ? Me torturer aujourd'hui, Denis Farou, avec ces sujets ? Je veux pas en manger.
On se parle bistouri, ça se termine par les grillons.
Pour l'instant, on écoute Vanille, c'est la fille de Julien Clerc avec Suivre le soleil.
Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi, le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas. Oui, je sais, oui, Paris, c'est froid, c'est chagrin. L'hiver, par ici, on n'en voit pas la fin. Si tu suivais le soleil, juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi, l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux. Comme tes yeux dans le ciel, te ferait le monde beau, le monde beau. Le vent emportait tes tourments en chemin. Que renaisse le feu qui brûlait dans tes yeux un matin. Oui, je sais, oui. Soleil, juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi, l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux. Comme tes yeux dans le ciel, te ferait le monde beau, le monde beau. Changer de peau, le monde beau. Juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi, l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux. Comme tes yeux dans le ciel, te ferait le monde beau, le monde beau.
Vanille, la fille de Julien Clerc, avec ce titre « Suivre le soleil ». Malheureusement, il n'est plus temps. C'est la rentrée. Il faut rentrer maintenant. Le soleil, c'est terminé. 13h27 sur France Bleu. On accueille Jean-Claude qui joue avec nous. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour.
Où êtes-vous Jean-Claude ?
Là, je suis dans le sud-ouest, sur le bord de la mer, à Cap-Breton.
À Cap-Breton ?
Cap-Breton, oui.
Ah, d'accord, très bien Jean-Claude. Vous êtes en vacances, oui. Vous êtes...
Non, je suis retraité, oui, c'est ça, on va dire en vacances.
Hein, souvent,
en, mer, voilà.
En vacances oui. Dans la tête, Jean-Claude, c'est déjà pas
voilà,
mal.
Voilà, c'est ça. C'est bien, oui.
Vous, vous êtes tranquille, il n'y a pas la rentrée lundi.
Non, pas du tout. Je remonte sur Paris demain, mais il n'y a pas la rentrée avec les enfants.
Bon, tranquille. Voilà. Tranquille, Jean-Claude. Du coup, ça vous a intéressé, ce musée de la chirurgie dans la Nièvre ?
Oui, c'est pas inintéressant. Hein, bon, c'est peut-être pas une partie de plaisir, mais...
Non.
C'est intéressant à voir. Ça, hein.
On préfère être en 2019, en effet. Ma question était la suivante. Quel célèbre chirurgien a utilisé en premier le mot bistouri ? Est-ce que c'était Hippocrate ou Ambroise Paré ?
Ambroise Paré. Voilà.
Et oui, et effectivement, oui. C'est la bonne réponse, Jean-Claude.
C'est drôle, on a l'impression que vous êtes dans une cabine téléphonique. Parce que ça,
non, je me suis isolé pour éviter de M. Larsen qui a fauté.
Vous êtes où ?
Il s'est isolé, Jean-Claude.
Ah, isolé.
Isolé, oui, j'ai fermé les portes.
Bon, bah, très bien. Bon, Jean-Claude, voilà. On vous envoie la montre France Bleu Sport à porter au Cap-Breton ou à Paris où vous voulez. On vous l'envoie et on fait une grosse bise avec.
Je vous remercie, oui.
Et bien de rien.
Bonne opération alors. Hein.
Merci beaucoup. Merci Jean-Claude.
Bon,
à bientôt. Bonne journée. Au revoir Jean-Claude, au revoir.
France Bleu, partenaire de Le Temps est assassin, la série événements sur TF1. Clotilde revient en Corse 25 ans après l'accident qui a coûté la vie à son frère et ses parents.
S'il y avait une chance sur un million qu'elle soit encore vivante, est-ce que je devrais pas tout faire pour la retrouver ?
Avec Mathilde Seigné, Jennifer Bartoli, Fred Testo, Thierry Godard, Grégory Fitoussi et Katrina Murino. Le Temps est assassin, d'après le best-seller de Michel Bussy, jeudi 29 août sur TF1 à 21h05. Avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
francebleu.fr.
À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur francebleu.fr.
France Bleu Paris. Info, Trafic et mobilité en temps réel. Romain Bercher.
Et à 13h30, c'est bon, tous les véhicules peuvent circuler normalement dans Paris et sa petite couronne depuis au moins une demi-heure. Les mesures de restriction sont levées par la préfecture, il n'y a donc plus besoin de vignettes critères particulières. Ailleurs, il y a un accident tout de même à vous signaler, un accident corporel sur l'A6A lorsque vous quittez Paris au niveau d'Arcueil. Deux véhicules sont impliqués et la voie de droite est fermée. Et puis il y a encore des coups de frein par endroit sur la 86 extérieure à cause de travaux à Joinville-le-Pont jusqu'à Rosny-sous-Bois. Vous pouvez perdre jusqu'à 5 minutes sur votre trajet. Je vous dis aussi que la ligne R du Transilien est interrompue entre Melun et Moret.
Dans une heure en France, on file à Nantes, passer des coups de fil dans des cabines téléphoniques. On vous explique tout après Marc Lavoine.
Toi, mon amour, toi qui as le cœur lourd, amour, est-ce que tu m'aimes toujours pour toujours? Moi, je suis fait pour toi, mon amour. Je ne pense qu'à ça. Seul mot de toi, je vole en éclats. Ah, ah, ah. Avant toi, j'ignorais tout ça, et tu n'en savais pas plus que moi. Amours, amours, avec ma pomme.
Il y a de l'amour dans l'air, toi mon amour, avec Marc Lavoine, et c'était bien sûr sur France Bleu.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
Nous fêtons un anniversaire à Nantes, celui d'une institution, les 100 ans de la librairie Coiffard. Et à cette occasion, elle s'est associée au livre audio Audiolib et a installé deux cabines téléphoniques. Au bout du fil, de grands comédiens nous lisent des textes célèbres.
Coiffard, j'écoute, je demande du Boris Vian, du Marguerite Yourcenar ou du François Sagan.
Allez, on pousse la porte pour essayer le concept avec la responsable rencontre et animation de la librairie. Bonjour Stéphanie Hannet.
Bonjour.
Elles ressemblent à quoi ces cabines? Vous pouvez nous les décrire? C'est un peu comme à Londres, les cabines téléphoniques rouges?
Ah, mais ce sont des cabines téléphoniques anglaises qu'on a fait venir spécialement. Donc vraiment la vraie cabine, haute, lourde, assez imposante, avec la petite couronne au-dessus de la cabine. Et puis évidemment, on les a recostomisées. Donc elles ne sont plus rouges, elles sont noires. et il y a marqué coiffard, j'écoute, en haut de la cabine.
Et quel est le principe? On entre dans la cabine, on met un jeton, ou on décroche le téléphone, on se laisse guider?
Vous avez, quand vous rentrez dans la cabine, il y a un petit annuaire qui est collé contre la cabine et en fait il y a un numéro à composer selon vous faites le choix d'un auteur et de contact. Mmh. Vous composez le numéro qui correspond à la date de naissance de l'auteur et une fois que vous avez composé ce numéro, ça sonne, ça décroche et vous avez 3 minutes d'extrait.
Et combien de textes sont proposés? Combien d'extraits de romans?
Alors, il y a 25 extraits dans chaque cabine, parce qu'il y a 2 cabines, une qui est tout près de la librairie et une autre qui est sur le toit de l'école d'architecture avec une vue magnifique sur la Loire. Donc, 25 textes différents. Hein. Mm-hmm. Près de la librairie, ce sont 25 extraits qu'on a choisis avec les éditions Gallimard et leur collection Écoutez lire, et sur le toit de l'école d'architecture avec les éditions Audiolib.
Vous voulez un extrait de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, Frédéric, lu par Sarah Giraudeau.
À 6h. En revenant des îles, Cyril tirait le bateau sur le sable. Nous rejoignions la maison par le bois de pin, et pour nous réchauffer, nous inventions des jeux d'indiens, des courses à handicap. Il me rattrapait régulièrement avant la maison, s'abattait sur moi en criant « Victoire !», me roulait dans les aiguilles de pin, me ligotait et m'embrassait.
Alors ça, c'est l'extrait qu'on entend une fois qu'on a saisi le téléphone et composé le numéro dans la cabine téléphonique, Stéphanie Hannet.
Tout à fait, c'est bien ça.
D'accord.
C'est exactement ça.
Et est-ce qu'il y a plusieurs extraits d'un même roman ou un seul à chaque fois?
Non, un seul extrait à chaque fois.
D'accord. Et c'est vous qui avez choisi les 25 auteurs, Camus, Orwell, Queneau, Yourcenar, Alice Zénitaire?
Des valeurs sûres.
Effectivement, en fait, c'est nous qui les avons choisis en collaboration avec l'équipe de la librairie et puis évidemment les éditeurs aussi. Et ce choix s'est fait à plusieurs niveaux. Pour les éditeurs, les auteurs contemporains, ce sont des auteurs que nous avons aimés, que nous avons reçus à la librairie. Mathias Sénard, Philippe Lanson, Emmanuel Carrère sont des auteurs qu'on a reçus, donc on a créé un lien avec eux. Et puis ensuite, pour les 100 ans de la librairie, nous avons aussi édité un petit catalogue qu'on a appelé 100 ans. 100 romans, avec une sélection de 100 incontournables pour l'équipe de la librairie. Et donc, les textes plus classiques, Camus, Giono, sont des textes qu'on retrouve dans cette sélection, dans ce catalogue.
C'est quoi les réactions? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui poussent la porte de la cabine téléphonique? Est-ce que vous les voyez depuis la librairie et est-ce que vous avez des retours?
Parce que certains pensent peut-être passer un coup de fil à leur belle-mère.
Ça s'est raté. Non, ça marche vraiment très bien. Les gens sont ravis pour plusieurs raisons. Déjà, on ne voit plus de cabine téléphonique. Ça y est, c'est terminé. Le téléphone portable a fait disparaître cet incontournable. On en voyait à tous les coins de rue avant. Donc déjà, les personnes sont curieuses. Ça les arrête de voir une cabine. Évidemment, une cabine anglaise, je pense que ça ajoute à cet instant de surprise de voir ça à cet endroit-là. Et puis ensuite, c'est comment décrocher le combiné, de refaire ce numéro. Vous voyez, on entend le petit son de quand on appuie sur chacune des touches. Oui. Alors, pour les personnes qui ont connu les cabines téléphoniques, c'est amusant, il y a un petit côté nostalgique. Et puis pour les plus jeunes, c'est quelque chose de surprenant. J'en voyais l'autre jour 2 jeunes femmes. Elles ne savaient même pas tellement comment est-ce qu'on appelait une cabine téléphonique. Elles disaient une télécabine.
Oula, c'est très jeune.
Ouais, ça, c'est aussi.
Donc les plus jeunes, pour eux, c'est quelque chose de complètement inconnu, donc c'est amusant.
Et puis il y a des belles voix à l'intérieur du combiné, comme celle d'Arthur H. qui lit un extrait de « L'écume des jours » de Boris Vian.
« Il est midi, » conclut Nicolas. « Monsieur désire-t-il son petit déjeuner ? Il y a de la queue de bœuf broyée et un bol de punch aux aromates avec croûtons beurrés d'anchois. »
Bon appétit.
C'est vraiment réjouissant. L'idée, Stéphanie Hannet, c'est que quoi, le livre s'installe dans la ville, ce soit quelque chose de plus accessible, entre guillemets ?
Ah oui, bon, il y a plein d'idées, évidemment, de placer la littérature au cœur de la ville, c'en est une, d'amener comme ça le livre autrement. C'est vrai qu'une librairie, ça peut être impressionnant pour certaines personnes. On peut considérer ça un peu comme un sanctuaire. Ça peut faire un peu peur de rentrer dans une cabine et de décrocher, d'entendre un texte. Voilà, on a le texte immédiatement. On a une voix qui nous parle. On espère que ça va permettre à des personnes d'avoir envie ensuite de pousser la porte
d'une
librairie. voilà, pour aller plus loin dans le texte.
Coiffard, j'écoute. mettent les extraits de livres au téléphone dans des cabines téléphoniques à Nantes pour les 100 ans de la librairie.
C'est vraiment une très bonne idée. Je précise qu'une fois cet événement terminé, les cabines téléphoniques iront au CHU de Nantes. C'est important de le dire, elles poursuivront leur parcours là-bas.
C'est bien ça.
Merci beaucoup Stéphanie Hannet. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle journée et un bon anniversaire. Les 100 ans de coiffard.
Merci, bonne journée à vous.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Et maintenant que les téléphones portables existent, nous vous proposons de repartir avec un support de téléphone portable France Bleu. Dites-nous de quelle couleur sont les cabines coiffards, j'écoute. Elle nous l'a dit, Stéphanie.
Les cabines et pas les télécabines.
Non, les cabines tout court, les cabines téléphoniques, de quelle couleur sont-elles? Vous nous appelez, je n'ai pas de proposition assez facile. Stéphanie nous en a parlé, 0810 055 056. C'est à vous de jouer et là c'est Alain Bachung et sa prose que nous allons entendre à la radio, Les Vertiges de l'amour.
J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la Roquine Carmélite. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Puis y a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh oh, vertige de l'amour. Tu chopes des souhaits à Saigon. Je m'écris des cartes postales du front. Si ça continue je me découvre. T'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh, vertige de l'amour. Mon légionnaire attend qu'on chante. Et la tranchée vient d'être.
Dérange pas de faire du bruit, Denis Farrow. Bruit de stylo, de souris,
de
disque, que c'est terminé.
Dites, hein.
Voilà, Alain Bachung sur France Bleu. La programmatrice est amoureuse, à mon avis. Hein. On a eu Toi, mon amour de Marc Lavoine, Vertige de l'amour d'Alain Bachung. Et puis, il y a une chanson très romantique qui arrive. On va la découvrir dans quelques instants.
Retour de vacances.
Et voilà. Gérard est avec nous. Bonjour, Gérard.
Oui, bonjour, madame. Bonjour, France Bleu.
Ah, ben, on peut s'appeler Frédéric, hein, Gérard. Je vous dis bien, Gérard.
Bonjour Frédéric, ouais,
vous êtes où?
Alors là, actuellement, je suis à Vesoul.
D'accord, pour le travail, habitez là?
Oui, tout à fait, pour le travail, oui.
Vous faites quoi dans la vie, Gérard?
Bah, je suis chauffeur routier, donc là, je suis à Vesoul.
D'accord, et vous êtes en pause, vous nous écoutez?
Oui, tout à fait, oui.
D'accord, donc vous avez bien écouté ce qui se passe à Nantes, avec les cabines téléphoniques qui nous lisent des extraits de grands romans. Est-ce que vous avez retenu de quelle couleur sont ces cabines?
Eh ben, écoutez, elles sont noires. J'ai été surpris parce que je les voyais encore rouges, mais bon, elles sont noires.
Bah, c'était une volonté de la librairie, hein, parce qu'à Londres, elles restent rouges, ces cabines.
Elles restent rouges à Londres.
Oui. Ça, c'est uniquement à Nantes. En tout cas, Gérard, nous, on vous offre un support de téléphone France Bleu. C'est pour vous.
Ah, bah, c'est gentil, c'est sympa, merci bien.
De rien. Vous avez été en vacances, vous reprenez?
Pas encore, non, je les prends toujours très tard. Je suis amateur de champignons, donc toujours au mois d'octobre.
Ah, super! Donc vous allez un peu partir ou rester tranquillement à la maison pendant vos vacances?
Oh, on va dire dans la région, quoi, l'est de la France, le petit est de la France, quoi, les Vosges, la Haute-Saône, ouais.
Ah, des petites balades, sympa. Ouais. Sympa comme tout. Bah, écoutez, Gérard, on vous souhaite bon courage d'ici là avec le travail.
Et bonne récolte de champignons dans quelques semaines.
Ah bah merci, j'ai encore 25 bocaux de 2017 encore.
Oh bah il va falloir aller manger très vite, hein, Gérard. On vous fait une grosse bise. À bientôt,
allez, merci,
Gérard.
Merci. Bonne journée, France 2. Ouais.
Bonne journée à vous, au revoir. Vous allez l'entendre, son timbre ressemble vraiment à celui d'Adèle. J'aime beaucoup cette chanteuse, j'espère que vous aussi. C'est Lauren Daigle avec You Say.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Remind me once again just who I am, because I need to know.
C'est le genre de titre où, je sais pas vous Denis, mais moi je prends ma brosse à cheveux pour imiter comme ça la chanteuse, la chanteuse à voix.
Alors moi, pas du tout.
Non, ça me m'étonne de vous. You Say sur France Bleu, c'était Lauren Daigle.
Une heure en France, Denis Farrow, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Et en dessert ce midi, ce sera un petit sablé aux épices et aux grillons. Un cuisinier de Limoges et un traiteur d'Émoutier en Haute-Vienne ont mis au point un sablé protéiné à base de farine de grillon.
Il s'appelle le... Curriquito.
J'ai pris votre élan.
Un biscuit insolite et sans gluten, mais avec des grillons.
Et c'est le traiteur qui est avec nous. Bonjour Xavier Dubois.
Bonjour.
Pourquoi des gâteaux aux insectes? Parce qu'il va falloir s'y habituer un jour ou l'autre?
Ah, ça c'est une des grandes possibilités à venir, effectivement. Mais disons que pour l'instant, la protéine, c'est quand même quelque chose dont on a besoin. Et une protéine d'insecte est beaucoup plus sobre pour la nature et on commence à en avoir vraiment besoin de la préserver, notre nature.
Xavier Dubois, j'ai lu que vous aviez mis beaucoup de temps à mettre cette recette en place. Pourquoi c'est difficile à travailler, la farine de grillon?
Alors la farine de grillon a quelques défauts au niveau structurel et qui est donc c'est difficile d'avoir après un biscuit qui se tient et qui reste joli et agréable à manger. Donc oui, ça nous a posé quelques petits problèmes techniques et surtout des problèmes techniques par rapport au passage dans une machine qui s'appelle une dresseuse. Et bon, c'est pas des machines énormes, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut maîtriser.
Alors vous êtes installé en Haute-Vienne, la farine vient de Toulouse, les grillons aussi?
Alors les grillons sont élevés à Toulouse et donc ils nous les envoient transformés en farine directement.
Et donc ils sont bons spécialement les grillons de Toulouse?
Ah ben c'est les meilleurs.
Ah bon, mais pourquoi?
Et c'est connu quand même, Frédéric, les grillons de Toulouse.
Le grillon de Toulouse, parce que d'abord, c'était pas trop loin de chez nous, donc on a toujours dans cet esprit de faire un peu dans la sobriété par rapport aux dépenses de la nature. Mmh. Et ensuite, parce que c'est un élevage qui travaille d'une manière propre, et voilà, il n'y en a pas tant que ça non plus, de toute façon, le choix est assez restreint.
Xavier Dubois, on en sourit un petit peu, mais pour qu'on se rende bien compte, une fois qu'on déguste le biscuit, il n'y a plus du tout on va pas reconnaître un grillon, c'est juste dans la farine, on ne le sent pas, on ne le voit pas.
Vous allez pas le reconnaître, vous allez difficilement le deviner si vous n'êtes pas féru dans le domaine. Disons que moi, mon travail, étant donné que culturellement on n'est pas versé dans la dégustation d'insectes dans notre pays, même en Europe, a été de mettre tout ça un petit peu en sourdine et de développer plutôt des goûts qu'on aime bien, donc d'un biscuit sablé. Mais en apportant les bienfaits de cette bestiole qui sont pas que la protéine, hein, il y a aussi énormément de bienfaits dans le grillon.
Nos confrères de France 3 se sont promenés dans les rues des Moutiers en Limousin et ont demandé aux passants, est-ce que c'est bon?
Moi j'aime bien. Ça va.
Bonjour mademoiselle.
Très bon.
Il y a du seigle, il y a des épices.
C'est pas vraiment du seigle, c'est plutôt du grillon.
Ah d'accord, mais c'est très bon, pas de problème, j'adopte.
Ils ont l'air emballés. Xavier Dubois.
Mais oui. Dans l'ensemble, les gens qui y goûtent, même plus que dans l'ensemble, hein, en très très grande majorité, quand je fais goûter, les gens trouvent ça très très bon. Il y a toujours une petite réticence tant qu'on ne connaît pas. Mmh. C'est culturel.
Ouais, c'est bon avant et c'est un tout petit peu moins bon quand on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il faudra s'y
Alors,
faire.
Alors il y a des gens qui trouvent qu'effectivement le goût change quand ils connaissent la composition. Voilà. Mais la plupart des gens continuent à trouver ça bon parce que vraiment mes biscuits sont goûteux. On sent le goût de la noix de coco ou le goût du citron, ou etc. Tous mes parfums, les épices à pain d'épices et autres.
C'est ce que j'allais dire. Il y a 5 parfums, tous sucrés. C'est très bon pour la santé. Ça apporte beaucoup de bienfaits et pas que les protéines, vous l'avez dit. Il faut tester. Vous pouvez nous redonner le nom de ce biscuit?
J'ai pas entendu, excusez-moi.
Le nom du biscuit, c'est Kurikito, c'est ça?
Kurikito, c'est un mot qui veut dire grillon en japonais.
Ah, c'est très, très joli, puis on se couchera moins bête.
Comme dirait Frédéric, on a encore appris quelque chose aujourd'hui. Kurikito.
Kurikito.
Voilà.
Merci beaucoup, Xavier Dubois. Merci. On vous souhaite une belle journée, et puis sayonara.
Merci, très bien, bravo. Je vois que vous connaissez beaucoup le japonais aussi.
Voilà, énormément.
Je vous remercie et je vous souhaite également une bonne journée.
À bientôt, au revoir. Robin Tick avec nous sur France Bleu. Le temps après de revenir avec Denis pour vous dire au revoir correctement.
just wanna get nasty. Hey, go ahead, get at me.
Come on.
What do we need dreams for? When you got them jeans on, what do we need steam for?
You the hottest bitch in this place.
I feel so lucky.
Ça donne envie de danser ce titre. Blue Red Lines, Robin Thicke sur France Bleu. Bon, Denis, je vous demande pas si ça vous donne envie de danser parce que vous ne faites rien décidément comme les autres. Mais revenons sur ce qui s'est passé aujourd'hui.
J'adore danser.
Ah bon, alors j'ai rien dit. Mais c'est chanter avec votre brosse à cheveux, ça. Alors, on a visité le musée de la chirurgie dans la Nièvre.
Oui, on a commencé en hors d'œuvre avec des bistouris et des saignées au musée de la chirurgie dans la Nièvre.
Il se visite que sur demande et puis pendant les journées du patrimoine.
Et l'auditeur Jean-Claude qui nous appelait de Cap-Breton nous a souhaité de bonnes opérations.
Oui, je crois qu'on en doit le prendre. Et puis après on a poursuivi à Nantes avec des cabines téléphoniques mises en place qui nous lisent des textes des grands romans.
On n'avait pas imaginé que des jeunes qui n'ont pas connu la période des cabines téléphoniques appellent ça des télécabines.
Et puis on a terminé avec des sablés à la farine de grillon, pourquoi pas en fait.
Kurikito.
Oui, ce qui veut dire grillon en japonais.
Saronaya.
Non, c'est mauvais. Reprenez. Comment on dit au revoir en japonais? C'est
bye bye.
Non, c'est sayonara. Et donc on se revoit demain, Denis, à partir de 13h.
Avec un mariage zéro déchet.
À demain.